France Culture. Les nuits de France Culture.
Quand nous en serons au temps d'anarchie, les humains joyeux auront un gros cœur et légères pensées. Heureuse on saura sainte récompense dans l'amour d'autrui doubler son bonheur.
En 1990, il pouvait y avoir quelque chose d'anachronique ou de décalé dans le fait de donner la parole à quelques grands témoins de l'histoire des luttes ouvrières. L'affaire semblait entendue, le mur de Berlin était tombé quelque temps plus tôt, l'URSS suivrait quelque temps plus tard, les lendemains qui chantent ne semblaient plus à l'ordre du jour. Et pourtant, au-delà de ces événements géopolitiques, une question sociale, de lutte sociale, demeurait posée partout et résistait aux bouleversements idéologiques. 1990, c'est l'année de l'émission que vous allez entendre dans un instant. C'est aussi l'année de la parution du 37e tome du Métron, le grand dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, désigné simplement par le nom de son auteur, Jean Métron. Depuis 1964 jusqu'à sa disparition en 1987, cet historien avait compilé, collecté, reconstitué une infinité de biographies des protagonistes des luttes sociales. En 1990, donc, Alain Astaud donne la parole à six de ces personnalités dans une série de chemins de la connaissance intitulée « Fragments de mémoire ouvrière ». En voici le premier volet, avec le témoignage de Roland et Yvonne Filiatre. C'était le 24 septembre 1990.
À une époque où l'on proclame de toutes parts la mort des idéologies, il peut paraître anachronique de vouloir faire parler cinq mémoires du mouvement ouvrier. Façon de ne pas céder totalement à l'air du temps, occasion surtout de rappeler que quelques historiens perpétuent l'œuvre de l'un de leurs confrères et amis, Jean Métron, en poursuivant la publication de son monumental dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Le volume 37 vient d'ailleurs de paraître. Les cinq portraits témoignages puisés dans ce qu'il est convenu d'appeler le Métron et que l'on entendra tout au long de cette semaine, ne prétend ni à l'exhaustivité, ni à l'exemplarité d'une histoire prolétarienne. Ils sont chacun un témoignage personnel, particulier, comme autant de fragments d'une mémoire collective. Le premier témoignage, c'est celui d'un couple, Roland et Yvonne Filiatre. Yvonne Filiatre est âgée de 81 ans, Roland, lui, à l'âge de ce siècle. Il vient de fêter ces jours-ci ses 90 ans. Il est le troisième d'une modeste famille de 10 enfants, et s'il quitte l'école à l'âge de 13 ans, c'est pour faire aussitôt ses classes politiques.
Dès l'âge de 13 ans, j'ai adhéré aux jeunesses socialistes. Ça ne ressemblait pas aux jeunesses socialistes de maintenant. C'était assez idéaliste. Et puis, c'était pas structuré comme maintenant. Ça existait quand même, il y a quand même une organisation. Maintenant, vous savez, tout ça, moi, je suis vieux et ma mémoire est vacillante. Ça se perd un peu dans la nuit des temps. Le côté pratique de l'organisation.
Alors, dès l'âge de 16 ans, on est en pleine Première Guerre mondiale, vous connaissez la prison et vous êtes arrêté pour intelligence avec l'ennemi.
Oui, c'est vrai. J'étais arrêté parce que je distribuais un journal pacifique qui s'appelait La Vague. Voilà. J'étais arrêté et j'ai l'impression que l'inculpation d'intelligence avec l'ennemi, c'est plutôt une farce de la part des gens qui m'ont arrêté. Vous voyez, ils ont voulu me terroriser, naturellement. Mais quand même, on m'a quand même collé en cellule. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté une dizaine de jours.
Il y a certaines scènes de cette guerre qui vous révoltaient et qui expliquaient votre pacifisme.
Ah oui, d'abord, il y a des choses, vous savez, des choses qu'on disait, qu'on écrivait dans la presse. Je savais que ce n'était pas vrai, que c'était faux, que c'était une propagande de... comment je pourrais dire, pour semer la haine davantage. Vous avez les histoires des enfants, des soldats qui coupaient les mains des enfants, tout ça, je trouvais ça révoltant de raconter des histoires comme ça.
Et c'est votre pacifisme qui vous amène à accueillir favorablement la révolution russe?
Ah oui,
Vous vous souvenez des espoirs que cela a pu susciter chez vous ?
Ça a été extraordinaire. Ça, je me souviens, c'était extraordinaire. Il y a quelque chose qui se réalisait dans les espoirs qu'on pouvait avoir. Vous savez, j'avais encore dans la tête, moi aussi, des choses prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est pas, ça me semblait tellement évident que ça devait être. Alors ça n'existait pas, puisque les prolétaires de tous les pays se battaient. Ils se battaient pas. Ils se battaient. Ils s'étaient unis avec leurs propres dirigeants. Ça, c'est affreux quand on a 14 ou 15 ans. Bon, et qu'on y croit à ça, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, parce que c'est beau ça de s'unir contre les gens qui exploitent les uns et les autres. Mais ils ne s'unissaient pas, ils se battaient. Ils se battaient en hurlant à Berlin avec la fleur au fusil, en parlant des boches. Je ne sais pas comment ça se passait de l'autre côté. Alors, je n'y sais pas. Et puis d'un coup, voilà que ça prend forme, que dans un pays donné, on cesse ça, et qu'on va lutter contre cette guerre-là. C'était, et puis, ils s'en suivent après ça, parce que moi, je pensais qu'évidemment, on allait voir les associations de libres travailleurs dans les libres entreprises. Et toute la suite, c'était beau, ça.
C'est aussi logiquement que vous êtes favorable à la création d'un parti communiste français et que vous adhérez à ce parti.
J'ai adhéré tout de suite à ce parti.
Mais vous n'êtes pas très à l'aise au sein de ce parti.
Au début, si. Au début, si, mais... moi, c'était en 1920. La révolution a eu lieu en 1917. De 1917 à 1920, il s'est passé des choses que j'ignorais en Russie. Et puis, quand j'ai adhéré à ça, j'ai eu connaissance de pratiques de lutte interne qui m'ont beaucoup déplu. Il y avait aussi... j'étais attaché à des noms aussi, vous savez. Je savais des choses, que par exemple, l'armée rouge, c'était un nommé Trotsky qui l'avait dirigé, créé et dirigé. Et c'était important. Et j'apprends tout d'un coup que cet homme était plus ou moins un traître. Alors c'est des choses comme ça qui sont... Mais qui sèment le doute dans l'esprit d'un adolescent. Et j'ai commencé à regarder d'un peu plus près les informations qu'on me donnait, si elles étaient crédibles ou pas crédibles. Voilà.
Et elles vous sont apparues plutôt peu crédibles?
Les trois quarts, oui. Les trois quarts.
Alors, c'est la raison pour laquelle vous allez être exclu du Parti communiste?
Oui, c'est la raison pour laquelle, parce que j'ai commencé à l'intérieur du Parti communiste à participer à des conversations, des colloques, des réunions de gens qui se posaient des questions.
Cette exclusion, elle date de 1928.
1928.
Et à partir de là, vous vous tenez plutôt à l'écart de la politique?
Pas à l'écart, mais j'ai... pas d'une façon militante.
Vous mettez un petit peu en retrait.
J'étais en retrait, je n'étais pas engagé. Voilà.
Cette période de l'exclusion du Parti communiste correspond aussi à la période où vous allez acquérir une formation d'électricien.
C'est ça.
Alors, l'électricité à l'époque, c'est une activité en pleine expansion.
Ah oui.
Et est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les électriciens, ce sont des aristocrates de la classe ouvrière ?
Un peu, vous savez, mais on peut dire la même chose des ajusteurs.
Enfin, vous êtes ouvrier, mais vous êtes aussi un peu intellectuel.
Je ne sais pas, moi, je ne me suis pas donné cette idée. J'ai toujours probablement une activité intellectuelle. Et puis, le caractère intellectuel, ça s'acquiert au fil des temps.
Roland, à l'époque, le téléphone... commençait à se développer.
Ah oui.
Et les installations de téléphone.
Oui, ça fait quand même partie de l'électricité, important. Ça. C'est une utilisation de l'électricité. Naturellement plus compliquée que l'installation des lampes.
C'est à la même période que vous faites la connaissance de votre femme, Yvonne. Alors vous, Yvonne, vous êtes en fait une orpheline de guerre.
Oui. Orpheline, avec mon frère et ma sœur.
Cela signifiait quoi, être orpheline de guerre au sortir de cette Première Guerre mondiale?
Peut-être des gosses de trop.
Alors, est-il exact que pour devenir secrétaire, vous ne disposiez pas d'une machine à écrire?
Non, c'est exact.
Et vous avez en fait reproduit le clavier sur un morceau de carton?
Seulement, ce n'était pas pareil. Quand j'ai voulu taper, ce n'était pas tout à fait la même chose.
Mais vous avez quand même réussi votre examen?
Ah ben oui. Quand j'ai eu 18 ans, mon oncle m'a émancipée parce que je voulais m'en aller. Deux jours après, j'ai quitté et je suis allée au Palais de la Femme où j'ai eu en dortoir. J'avais dans le dortoir parce que toute seule, je ne pouvais pas habiter en hôtel et je n'avais pas de famille. Je suis allée au Palais de la Femme et là, j'ai trouvé du travail parce que j'étais orpheline. Un chef de service qui était lui-même orphelin de la guerre m'a pris de préférence aux autres, quoique je ne savais pas très bien taper la machine. Je connaissais la sténo.
Lorsque vous faites la connaissance de votre mari, vous ne vous intéressez pas beaucoup à la politique?
Aucunement.
C'est lui qui va vous amener...
J'étais seulement révoltée.
Qu'est-ce qui vous révoltait?
Vous savez... Des gosses de trop.
En tous les cas, ce sont les manifestations de février 34, les manifestations d'extrême droite, qui vont vous inciter à vous réinscrire dans un parti.
Ah oui.
Ah oui, là.
Alors là, cette fois-ci, c'est la SFIO. C'est la vieille maison socialiste.
La vieille maison socialiste, oui. Mais on était encore assez... Dans cette vieille maison socialiste, on faisait un peu figure de d'intrus, parce que... On n'avait pas les bonnes mœurs qu'il y avait chez les socialistes à l'époque.
En fait, vous militiez à la gauche de ce parti,
oui.
dans un courant plutôt trotskiste.
D'abord, oui, plutôt trotskiste. Mais enfin, c'est vrai que les idées défendues à l'époque par Trotsky nous paraissaient, dans le monde communiste, les plus correctes. Elles nous paraissaient comme ça.
Alors, au sein de la SFIO, vous apparteniez à ce que l'on appelait le groupe bolchévique-léniniste.
C'est ça. Le groupe bolchévique-léniniste.
Alors, parmi les gens qui vont passer chez vous, il y a notamment des exilés anti-nazis et anti-fascistes.
Ah oui, ça, c'est un autre problème. Nous, Roland, une fois, est arrivé avec un... Il travaillait. Il sortait de la ville de Paris... Donc, une fois, il est arrivé avec un homme qui était un réfugié allemand et qui était sous le pont à Paris, où il avait passé. Et on l'a pris chez nous. Mmh. Il est arrivé chez nous.
Vous étiez un petit peu connu parmi les réfugiés pour...
Il était connu parmi les trotskistes allemands.
Bien sûr.
Bah, et puis eux-mêmes connaissaient... On vous a parlé de Rudolf Clément, par exemple, par l'intermédiaire de Rudolf Clément, par l'intermédiaire de copains. On recevait ces réfugiés chez nous.
Alors, puisqu'on évoque Rudolf Clément, il faut dire que c'était le responsable du secrétariat international du mouvement trotskiste.
Oui.
Que vous l'avez aidé à se réfugier en France, à se cacher en France. Mmh. Et en fait, on a fini par retrouver son corps atrocement mutilé dans la Seine. Est-ce que vous avez, vous, une opinion de ceux qui ont pu agir ainsi?
Qui ont pu le tuer?
Oui.
L'assassiner, oui. Ça, on sait qui c'est. Si c'était un Lituanien qui avait lié des relations avec lui, et qui a réussi à gagner sa confiance, et qui l'a un jour entraîné pour faire une petite promenade... Il l'a emmené à Melun et il y avait les assassins qui étaient là. Ce sont des staliniens qui l'ont assassiné. Ce sont les hommes de monde. C'est les mêmes gens qui ont assassiné plus tard Ignace Ress, par exemple. Voilà.
Quand on parle de combat politique, à l'époque, c'était véritablement l'expression qui convenait.
Ah, c'était vraiment du combat.
Il tuait.
C'était vraiment du combat.
Il tuait.
Physiquement du combat. Moi, je me souviens des... Des bagarres, par exemple, devant le mur des fédérés au Père Lachaise, hein, avec des attaques bien organisées.
C'était des ouvriers, des types communistes qui nous attaquaient. Ils ont tué énormément de gens, et en Espagne, entre autres, beaucoup de copains.
En France.
En France aussi.
C'est par pudeur que vous n'évoquez pas les tentatives qui ont été commises à votre égard ?
Ben oui, parce que ça ne sert à rien.
Vous pouvez être quand même un peu plus précis ?
Oui.
Je crois qu'il y a eu deux tentatives vous concernant.
Oui, c'est vrai.
Oui, il y a eu des barreaux d'échafaud d'acier sur une... au-dessus de cuves d'acide sulfurique. L'échafaudage était posé au travail sur 24 000 volts. Il y a eu ça, et puis il y a eu une tentative qui a échoué d'un type que j'avais très bien connu, qui était un ingénieur polonais d'origine, qui avait fait toutes ses études en France, et qui avait été expulsé de France. J'avais empêché son expulsion une fois par l'intervention d'un journaliste qui travaillait dans le populaire, qui s'appelait Pierre Lainé, qui avait réussi à empêcher son expulsion, mais il a été expulsé quelques mois plus tard. Et il est parti en Russie où il a été chargé d'installer le téléphone en Géorgie. Plus tard, il a été envoyé en Espagne, et en Espagne, il a eu une attitude tout à fait ignoble. Moi, je ne savais pas ça, je l'ai su par la suite. Il a retrouvé mon adresse où j'étais et il est venu.
Sur ordre ?
Avec l'ordre de m'assassiner, mais il ne savait pas que c'était moi qui l'assassinerais. Alors, c'est au cours de la conversation qu'il a su que c'était moi qui devais l'assassiner, il n'a pas voulu, il a foutu le camp. Je l'ai pris sur ma moto, je l'ai emmené à la gare Saint-Lazare où il est parti, j'ai plus une nouvelle de lui.
Je crois qu'il avait un surnom, cet homme.
Moi, je l'appelais...
La Rafale.
On l'appelait la Rafale parce que son nom, c'était Rafalovitch.
Et les pieds de son échelle, qui avaient été... trois pieds des échelles avaient été sciés presque jusqu'au bout. C'est un communiste qui lui a dit « monte pas là ».
Pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, vous ne vous tenez pas à l'écart. Vous êtes résistant dès votre retour de camp. Mmh. Et vous faites un travail assez dangereux parce que c'est un travail clandestin en direction de l'armée allemande.
C'est ça.
Ça consistait en quoi exactement ?
Eh bien, on publiait un journal en langue allemande, Arbeit und Soldat, c'est-à-dire travailleur et soldat. Et ce journal, clandestin naturellement, il fallait qu'il soit diffusé au sein de l'armée allemande.
Roland et Yvonne Filiatre seront arrêtés en octobre 1943 par la Gestapo. Mâchoire cassée, cécité, Roland Filiatre porte les séquelles des interrogatoires nazis. Tous deux seront déportés. Le couple Filiatre reviendra de ces camps d'où l'on ne devait jamais revenir. Ils reprendront alors leurs activités dans leur groupe trotskiste, pour finalement rompre en 1948. Et en 1960, ils participeront à la fondation du PSU. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours des militants dans l'âme ?
Oui.
C'est-à-dire qu'on s'intéresse encore beaucoup. Mais justement, nous, on est déjà impuissantés par l'âge. Par l'âge et puis par les handicaps. Et puis enfin, il faut laisser les jeunes faire ça. C'est ceux qui sont dans la force de l'âge, c'est ça, parce que nous, l'avenir est derrière.
Mais nous avons des contacts avec beaucoup de gens, nous discutons. On sert maintenant un petit peu de mémoire pour les jeunes.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 septembre 1990. À suivre.